Bonjour, c'est avec une grande joie que je vous retrouve pour cette émission sur Radio Maria qui se fait donc chaque semaine sur l'évangile de la famille et en lien avec Amoris Laetitia puisque nous sommes dans cette année merveilleuse que le Saint-Père vient de nous donner. Nous avons déjà vu un petit peu la présentation d'Amoris Laetitia de façon générale dans les deux dernières rencontres. Aujourd'hui, nous allons essayer ensemble, si vous voulez bien, d'essayer de mieux comprendre ce qu'est ce beau projet de Dieu pour l'amour humain. On le détaillera tout au long de l'année, on prendra du temps, mais là, je vais essayer de vous faire de façon assez courte une synthèse de ce qu'est ce beau projet de Dieu pour l'amour humain. Puisque, souvenez-vous, nous avons vu que dans Amoris Laetitia, plusieurs fois, le Saint-Père nous invite à proclamer l'évangile de la famille. Et nous avons vu qu'au numéro 63, je me permets de vous le relire, le Saint-Père qui nous dit plusieurs fois que cet évangile de la famille est important pour aujourd'hui. Et il nous dit que l'évangile de la famille, en fait, traverse l'histoire du monde depuis la création de l'homme à l'image et à la ressemblance de Dieu jusqu'à l'accomplissement du mystère de l'alliance dans le Christ à la fin des siècles, avec les noces de l'agneau, ça c'est au numéro 63, et que le Seigneur nous invite et nous accompagne aujourd'hui dans notre souci de vivre et de transmettre l'évangile de la famille. Le Seigneur nous accompagne aujourd'hui dans notre souci de le vivre et de transmettre cet évangile de la famille. Oui, mais encore faut-il bien connaître. Donc nous allons creuser un petit peu cet évangile de la famille, c'est-à-dire ce beau projet de Dieu qui nous permet de réaliser à quel point, dès l'origine, Dieu avait un projet d'amour pour chacun de nous. Et Saint Jean-Paul II nous le donne dans tous ses enseignements, notamment à travers la théologie du corps, où nous découvrons progressivement, avec une grande pédagogie, ce beau projet de Dieu pour l'homme. Alors, en trois parties ce matin, nous allons détailler ce beau projet de Dieu pour l'homme. Nous savons que, nous disons que par l'incarnation, nous dit Saint Jean-Paul II, par l'incarnation du Verbe, le corps est entré par la grande porte dans la théologie. C'est-à-dire que tout commence au moment de l'incarnation, c'est-à-dire au moment de l'annonciation, où Marie sait dire oui, Marie dit oui au projet de Dieu. Alors, si vous voulez bien, que s'est-il passé? Comment savons-nous? Voilà, comment pouvons-nous, en fait, parler de ce beau projet de façon assez synthétique et de façon cohérente? Tout d'abord, c'est le Christ. Nous dit le pape François, c'est le Christ qui nous renvoie à l'origine. C'est le Christ qui, dès le début, nous parle de la réaction de Jésus par rapport au mariage. Il nous dit, les évangiles font clairement ressortir l'exemple de Jésus qui a annoncé le message concernant la signification du mariage comme la plénitude de la révélation qui permet de retrouver le projet originel de Dieu. C'est-à-dire que le Christ, c'est dans Saint Matthieu au chapitre 19, eh bien, nous permet de nous renvoyant aux origines, nous permet de retrouver, de comprendre, d'approfondir le projet de Dieu qui est à l'origine. Quelle était l'intention créatrice de Dieu à l'origine? Pourquoi Dieu, tout d'un coup, s'est mis à créer l'homme et la femme? Quelle était son intention, ce qu'il avait dans le cœur? Eh bien, nous savons que en regardant, en nous plongeant dans la Genèse, puisque le Christ, en fait, nous envoie dans Matthieu 19, nous dit, à l'origine, il n'en était pas ainsi. Quand on parle, les apôtres lui demandent en disant, mais pourquoi Moïse a accepté le divorce? Et voilà, et comment se fait-il que Moïse a accepté le divorce? Il parle de la dureté du cœur, c'est à cause de la dureté du cœur que Moïse a accepté ça, mais à l'origine, il n'en était pas ainsi. Et donc le Christ, notre cœur étant endurci, nous ne pouvions plus le voir. Le Christ nous invite à sortir de cet endurcissement de notre cœur pour retrouver ce chemin des origines, de tourner notre cœur vers les origines. Et il nous dit, la condescendance divine accompagne toujours le chemin de l'homme par sa grâce. Et donc cette condescendance divine guérit et transforme le cœur endurci en l'orientant vers son origine à travers le chemin de la croix. C'est-à-dire que ça demande évidemment une conversion de ma part, conversion de votre part, conversion de la part de chacun, pour sortir de nos préjugés, de ce que nous croyons être la vérité, et de retrouver ce que Dieu avait prévu aux origines. En réalité, je vais vous partager mon expérience, plus j'ai creusé ces origines, plus j'ai compris la beauté de l'amour de Dieu pour moi. Plus j'ai creusé ces origines, plus j'ai compris la profondeur et la grandeur et la beauté du corps masculin, du corps féminin. Et plus je creuse ces origines, c'est-à-dire ces textes de la Genèse, plus je comprends, plus je saisis la richesse et le sens du mariage. Donc vous voyez, en creusant ce texte de la Genèse, on va ensemble pouvoir saisir la beauté du projet de Dieu. Ce qui est amusant, c'est que Saint Jean-Paul II invitait ses proches collaborateurs à lire tous les jours le texte de Genèse 1, 2, 3. C'est-à-dire l'action de Dieu, le projet de Dieu et la réponse de l'homme en face dans Genèse 3, qui est un doute, qui est une remise en question de l'immense amour de Dieu pour nous. Et donc vous voyez que, aidé par le talent des artistes qui savent transposer et éclairer d'une façon différente ces textes de la Bible, eh bien on arrive à saisir cette profondeur, cette grandeur de l'amour de Dieu pour chacun de nous. Il y a eu tous ces temps qui nous sont donnés dans la Genèse, toutes ces différentes étapes qui nous sont données dans Genèse 1 et 2, qui nous permettent de saisir la beauté du désir de Dieu, la grandeur, l'immense grandeur du désir de Dieu, de vouloir nous créer hommes et femmes. Et ce n'est pas une erreur qui nous est créée comme ça, vous imaginez bien, c'était profondément intentionnel. Dieu nous a créés, mais parce qu'il est amour. Il nous a créés par amour, pour l'amour, pour qu'on puisse participer à sa vie divine, à son échange d'amour, à cet échange d'amour qui est éternel, dès cette terre, avec nos limites évidemment, mais pour que nous puissions être pleinement dans l'éternité. C'est ça notre bonheur. Vous comprenez que si on se tourne vers le Créateur, alors on comprend mieux pourquoi Dieu nous a créés ainsi. Parce qu'il n'avait aucune nécessité de nous créer. Parce qu'il est parfait, il n'avait pas besoin de nous. Il se suffisait lui-même. Il ne manque de rien pour être et pour être qui il est. Parce qu'il est communion de trois personnes, éternel échange d'amour entre le Père et le Fils, d'où jaillit la vie de l'Esprit Saint. Cette communion d'amour des trois personnes de la Trinité, j'allais dire presque qu'elle se suffisait à elle-même. Dieu étant communion de trois personnes, éternel échange, n'avait pas besoin de nous. Dieu nous a créés uniquement par amour, par pure générosité, gratuite. En vue de quoi? Eh bien, pour l'amour, pour aimer, et donc pour être unis à lui qui est amour. C'est-à-dire qu'il nous a créés pour que nous puissions participer à son amour, que nous puissions être aimés et aimés avec lui. Pour aimer et pour être aimé. Notre origine, c'est Dieu. Notre destinée, c'est Dieu. On vient de Dieu et nous sommes faits pour Dieu. Dieu veut vivre avec nous éternellement. C'est ce qui fait notre grandeur, notre dignité et notre joie. Il faut en être convaincu. Dieu aime chacun de nous personnellement. Je vais même aller plus loin. Dieu a désiré chacun de nous depuis toujours. Toi qui te sens pas bien, tu as été désiré par Dieu. Toi qui te sens trop gros ou pas assez bon à l'école ou qui as le sentiment d'avoir raté ta vie, Dieu de toute éternité a désiré ta présence, ta vie parmi nous. Toi qui te sens inutile, mal aimé, en manque d'amour, Dieu t'a désiré depuis toujours. Chacun de nous a été désiré par Dieu. C'est ce qui fait notre grandeur, notre dignité et notre joie. Il faut en être convaincu. Il nous aime personnellement, en tant que personne, nous sommes uniques à ses yeux. Qui que nous soyons, quoi que nous ayons fait, il veut, il rêve, il attend, il souhaite, Dieu souhaite, désire s'unir avec chacun de nous. Quel mystère! Quelle grandeur! Rendez-vous compte de ça, que ce Dieu tout-puissant qui crée le ciel et la terre, qui est le tout-puissant, désire partager son amour avec moi, Marie-Gabrielle. Eh bien, vous savez, quand vous méditez ça, quand vous creusez ça, en tout cas, tentez-le, vous vous sentirez d'une grande force, vous vous sentirez d'une grande puissance, non pas d'un orgueil, pas du tout, mais d'une grande puissance dans le sens où une grande espérance, une grande confiance, une capacité à s'abandonner au Seigneur. Je sais que c'est difficile pour certains. Je sais que c'est plus facile à faire ou à dire quand on va bien que quand on va mal. Mais la réalité, chers amis, la réalité, c'est que cheminer vers cette prise de conscience nous comble d'espérance, nous comble de bonheur. Dieu donc nous a créé l'homme et la femme par amour, pour l'amour. Et il les a créés à son image, c'est-à-dire avec une aspiration à la communion, puisque, pour comprendre l'homme, ce qu'il nous est demandé, c'est de regarder vers Dieu, puisque nous sommes créés à son image. Plus nous allons regarder vers Dieu, qui est communion d'amour, plus nous allons comprendre que nous sommes faits pour la communion, pour nous aimer. Et c'est pour ça que le Christ nous renvoie à l'origine. Le Christ, quand on dit au Christ, est-il permis à un homme de renvoyer sa femme, il dit, dès le commencement, le Créateur les fit homme et femme. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. L'homme et la femme ont été créés à l'image de Dieu. Et donc, pour comprendre l'homme, le mieux, c'est de regarder Dieu. Pour qu'on comprenne l'homme, le seul moyen, c'est de regarder Dieu. Parce que Dieu créa l'homme à son image, il les créa homme et femme. C'est intéressant, vous savez, de se replonger dans le livre de la Genèse. Car les deux premiers chapitres ne racontent pas le déroulement historique, factuel de la création. Mais ces deux livres de la Genèse, ces deux chapitres, nous donnent de manière imagée et poétique le sens profond du sens de la création. Il ne dit pas le comment cela s'est passé, mais il va nous dire le pourquoi. C'est un texte qui nous permet de comprendre ce qu'est l'expérience humaine originelle, c'est-à-dire ce que je vous disais tout à l'heure, l'intention de Dieu pour l'homme à l'origine. Autrement dit, qui est l'homme ? Alors là, chers amis et auditeurs de Radio Maria, je me permets juste une petite pause. Vous imaginez l'importance, le caractère essentiel aujourd'hui de pouvoir prendre du temps pour comprendre ce qu'est l'homme. Aujourd'hui où on nie toute différence entre les hommes et les femmes, aujourd'hui où on se dit pouvoir dominer, maîtriser complètement cette humanité, jusqu'à envisagé d'en faire une marchandisation, aujourd'hui où l'homme veut dominer l'homme, en être le maître, vous comprenez bien qu'il y a une grande urgence de mieux saisir, de mieux comprendre pour transmettre ce qu'est l'homme. Et c'est pour ça que le Saint-Père nous dit que le Seigneur nous accompagne aujourd'hui dans notre souci de transmettre et de vivre de l'évangile de la famille. Et que le Seigneur nous regarde avec tendresse pour nous accompagner avec patience, avec vérité, mais aussi avec miséricorde pour annoncer les exigences du royaume, c'est-à-dire de comprendre ce que Dieu voulait pour l'homme et en vue de quoi il nous a créés. Nous avons quitté malheureusement cet état d'origine à cause du péché, parce qu'il a blessé notre nature humaine. Mais cette origine demeure comme un écho au fond du cœur de tout homme. Et cet écho, c'est ce désir d'aimer en vérité qui est inscrit au fond de notre cœur, que nous avons tous. Pensez quelques instants à la pire des personnes que vous pouvez connaître autour de vous, la pire. Dans l'histoire, la pire. Eh bien, cette personne a le même désir d'aimer en vérité que la meilleure des personnes que vous connaissiez autour de vous. Si j'ose dire, Hitler et Mère Teresa ont un point commun. C'est qu'ils avaient, l'un et l'autre, le même désir d'aimer en vérité. Pour moi, ça a été, je ne vous cache pas, une bombe quand j'ai découvert ça. Ça a été une source d'espérance extraordinaire. Ça veut dire que si j'ai l'occasion, si j'ai l'opportunité de parler au cœur d'une personne, je peux doucement, progressivement, patiemment, prendre le temps de retirer les parasites qui sont branchés sur son cœur pour doucement les enlever un par un. Ça peut prendre du temps, quelques jours, quelques années, mais doucement enlever ces parasites pour toucher l'endroit où il y a ce désir d'aimer en vérité. Toute personne qui arrive à déparasiter, à libérer cet écho des origines, cette capacité à aimer en vérité, eh bien, si on arrive à toucher cette partie, cette parcelle de cœur, mes amis, je peux vous garantir que cette personne vivra un grand bonheur. Il m'est arrivé plusieurs fois d'échanger avec des gens dans la rue comme ça, et de pouvoir tout doucement, enlever certains parasites. Je ne vous dis pas que le miracle se fait à chaque fois, mais doucement on peut arriver à atteindre le cœur profond de la personne et lui révéler sa capacité d'aimer et ce désir qu'elle a en elle d'être aimée en vérité. Je me souviens d'avoir longtemps parlé sur un plateau de télévisé à un journaliste qui ne comprenait pas, et j'ai fini par doucement lui parler de la beauté de son corps pour aller jusqu'à son cœur. Et à la fin de l'émission, alors qu'il avait été très agressif, très désagréable, humiliant sur le plateau, essayant de me déstabiliser, à la fin de l'émission, il me dit « Tu sais, la personne la plus belle que j'ai rencontrée, et tu me le confirmes ce soir, c'est Jésus. Parce que Jésus nous conduit vers un chemin de vérité. C'est la plus belle personne qui m'a été donnée de rencontrer. » Et là, je n'ai pas compris. Je lui ai dit « Mais pourquoi cette agressivité? Pourquoi la façon dont tu as essayé de me déstabiliser tout à l'heure ?» Il me dit « Parce que c'est mon travail, mais au fond de moi, je sais que tu as raison. » Vous voyez, je crois qu'il ne faut pas hésiter à proclamer, à dire et redire autour de vous que chaque personne est désirée par Dieu, qu'il est une merveille sous le regard de Dieu. Chaque personne est unique et aimée de façon incroyable dans le regard de Dieu. Et cet écho des origines, il est toujours dans le cœur de chaque personne. C'est inscrit au fond de notre cœur, même si c'est enfoui, même si cette personne a connu beaucoup de blessures, même si cette personne a commis les pires péchés, même si cette personne a une grande faiblesse. Cette personne a au fond de son cœur un désir d'aimer en vérité qui est inscrit tout au fond de son cœur. Et le Christ est venu renouveler le cœur de l'homme pour lui permettre de vivre le beau projet de Dieu. Et pour permettre à chacun de vivre ce beau projet que Dieu a pour chacun de nous, pour chaque personne, et nous aider à cheminer vers l'éternité. Alors, pour aller un petit peu plus loin, si vous voulez bien, on va poursuivre ce beau projet de Dieu. Je vous ai pris du temps pour vous expliquer un petit peu tous ces détails du beau projet de Dieu et ce que Dieu rêvait, ce dont Dieu rêvait, tout ce que Dieu pouvait rêver pour nous à l'origine. Le drame dans tout ça, c'est que nous l'avons refusé. Nous avons mis un doute, en fait, sur le fait que Dieu nous aime de façon inconditionnelle. Genèse 3. Le drame. L'homme a voulu être comme Dieu. L'homme veut être comme Dieu. L'homme se place au même niveau que Dieu. Et là, ne pas accueillir ce don qui nous est fait de façon gratuite par Dieu, c'est-à-dire cette capacité à nous aimer, ne pas accueillir ça, mettre un doute sur ce beau cadeau que Dieu nous fait, refuser ce don qui nous est fait, ne pas l'accueillir, eh bien, a créé en nous, chers amis, un trouble, une désunité. Désunité avec Dieu, d'abord. Ce lien qu'on avait privilégié avec Dieu est rompu. Une désunité avec l'autre. L'autre, en face, devient un danger, devient une menace, devient un risque, devient peut-être une opportunité de domination, de machination, de manipulation. Vous voyez, la relation avec l'autre n'est plus dans la paix, n'est plus dans le don, n'est plus dans la sérénité. Et puis, dernière désunité, c'est en nous. Nous sommes déchirés à l'intérieur. Notre capacité à aimer en vérité a été obstruée et nous sommes déchirés de l'intérieur. On est dans des tiraillements intérieurs, dans des espèces de combats intérieurs pour essayer de toujours faire le bien. On est dans une espèce de magma interne qui cause des troubles au fond de nous et qui nous fait perdre quelquefois la boule. Certaines personnes finissent par ne plus savoir qui ils sont. Ils ne savent même plus lire leur corps, qu'il dit ce qu'ils sont. Certaines personnes en arrivent à ne plus savoir qu'ils sont dignes, qu'ils ont une dignité. Tellement le désordre en interne est puissant. C'est une grande souffrance pour toutes ces personnes et pour nous-mêmes, pour chacun de nous. Chacun, à un moment ou à un autre, a pu vivre, expérimenter ce désordre intérieur. Ce trouble, cette confusion, cette espèce de tempête comme des vagues, comme des océans qui se cognent les uns contre les autres, cette espèce de tourbillon qui nous fait perdre un peu la boussole. Qui n'a pas connu ça déjà? Qui n'a pas connu cette tempête interne? Ce trouble au fond de notre âme? Eh bien, il vient de là. Il vient de cette rupture avec le Créateur. Ne pas avoir accueilli le beau projet de Dieu pour l'homme a fait que nous sommes devenus brisés en intérieur. Comme on parle d'esclavage du péché, mais j'ai envie de dire plutôt une espèce de fêlure en nous qui nous fait perdre un peu la boussole. Alors on va vouloir prendre la main sur tout ça pour contrôler. Et c'est là où on se détruit le plus souvent. On veut décider de ce qui est bien pour nous. On veut décider de ce qui est bien pour l'homme. On veut se passer du Créateur. Dieu n'a plus à être dans notre affaire. On veut gérer sans lui. Ça, c'est un drame, mes amis. C'est un drame pour l'humanité. C'est un drame pour ceux qui sont autour de nous. C'est un drame pour ce qui se vit à l'intérieur de notre cœur. La bonne nouvelle, c'est que Dieu, lui, n'a pas abandonné son projet. Si nous, par maladresse, nous n'avons pas su accueillir le projet de Dieu pour nous, Dieu lui, n'a pas perdu le cap. Si nous, nous avons refusé, rejeté cet amour immense de Dieu pour nous, si nous avons douté de l'amour de Dieu pour nous, lui, Dieu, ne doute pas de nous. Lui, Dieu, continue, poursuit, avec pédagogie, tout son désir de s'unir à nous. Et il envoie le Christ. Il se fait homme pour venir nous sauver. Alors vous voyez cette première partie, Dieu nous crée par amour. Et puis, ensuite, la réponse de l'homme, c'est un doute, c'est un refus, c'est un rejet de ce projet. Et la réaction de Dieu, c'est de dire, ne t'inquiète pas, je vais poursuivre mon désir d'amour pour toi. Je vais poursuivre mon désir de te partager cet amour que j'ai pour toi, pour que tu puisses le vivre. Et donc, à travers les textes de la Bible, et c'est pour ça que le Saint-Père s'appuie dans Amoris Laetitia sur la vision de Dieu dans la parole. Vous savez, la première partie, le premier chapitre, c'est « À la lumière de la parole ». Et comment la parole de Dieu nous éclaire sur la pédagogie de Dieu pour restaurer ce que nous avons rompu. C'est juste absolument magnifique. Et donc le Christ va s'incarner, le Christ va venir se donner encore, comme Dieu nous a donné l'un à l'autre, nous a donné la capacité de maîtriser la terre, nous avons refusé, on a participé au chaos en refusant ce projet de Dieu. Et bien Dieu n'abandonne pas son beau projet pour l'homme, il nous envoie son Fils pour nous redonner la capacité à vivre ce projet. Nous étions perdus, esclaves de notre obsession à vouloir saisir et posséder, et Dieu vient guérir notre cœur, nous redonner la capacité de vivre comme Dieu l'avait prévu à l'origine, dans un don total de nous-mêmes. Mais quelle espérance, mes amis, quelle espérance! Moi, si quelquefois je pourrais tenter de me décourager, eh bien, de voir ça me redonne un courage absolument fou. Me redonne la patate, comme diraient les jeunes. De se dire que, ça y est, on est sauvé. C'est vrai, tu n'es pas parfait, moi non plus. C'est vrai, je suis maladroite. C'est vrai, je me prends les pieds dans le tapis. C'est vrai qu'on n'y arrive pas toujours. C'est vrai qu'on n'est pas toujours fidèle au Seigneur. Mais le Christ est venu nous épouser sur le bois de la croix. Le Christ est venu restaurer ce que nous avons rompu en se mettant sur le bois de la croix. Le Christ vient lui-même nous délivrer pour nous donner la vraie liberté, nous faire sortir de cet esclavage. Il vient, vrai Dieu, vrai homme, donner sa vie pour chacun de nous en livrant son corps sur la croix. Il s'est donné sur la croix, dans son corps. Et la bonne nouvelle, c'est que par le don du Christ sur la croix, si le Christ est ressuscité 3 jours après, premier ressuscité de tous les hommes, eh bien nous aussi, nous pourrons ressusciter. Nous sommes appelés à ressusciter. Ça, c'est notre foi, c'est notre espérance. Et je vous assure que si vous relisez quelques passages de la messe, vous pourrez vous régaler de ce parcours pédagogique de Dieu qui nous permet de cheminer, cheminer vers une restauration intérieure. Et vous voyez, je vais vous relire cette phrase du Saint-Père, vous allez peut-être mieux comprendre. Peut-être avant d'aller jusqu'au bout de ma réflexion, c'est que, pardon, mais le Christ qui est ressuscité, donc nous permet, nous invite à ressusciter avec lui, c'est-à-dire à aller au banquet des noces, à retrouver le chemin de la vie éternelle. En accueillant pleinement le don de Dieu en nous, notre corps à la mort, notre corps sera pleinement accompli, nous serons définitivement sauvés, nous sommes, notre corps sera définitivement sauvé, c'est-à-dire que la rédemption de notre corps sera accomplie. Retour du Christ en gloire à la fin des temps, si nous sommes morts dans la grâce et l'amitié de Dieu, nous dit le catéchisme de l'Église catholique, Dieu Trinité nous fera le don de participer définitivement à sa vie divine. En retour, nous nous donnerons totalement à lui de corps et âme. C'est ça notre foi, c'est que nous sommes tous appelés à la vie éternelle. Et vous comprenez mieux maintenant le sens de cette phrase qui nous est donnée dans Amoris Laetitia au numéro 63, que je vous ai déjà lu plusieurs fois. L'évangile de la famille traverse l'histoire du monde, ce que je vous ai raconté tout à l'heure, depuis la création de l'homme à l'image et à la ressemblance de Dieu, jusqu'à l'accomplissement du mystère de l'alliance dans le Christ à la fin des siècles avec les noces de l'agneau, c'est-à-dire là où nous sommes tous attendus. Chers amis, vous savez que ces émissions se terminent toujours avec des pistes pour améliorer, des pistes pour progresser. Eh bien, si vous le voulez bien, les pistes qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de relire peut-être quelques préfaces de la liturgie eucharistique. Et puis, plus particulièrement, la prière eucharistique numéro 4. Vous aurez l'occasion de voir à quel point toute la liturgie eucharistique est tournée vers cette restauration, vers le salut, vers l'accueil de la rédemption, du don du Christ qui se donne sur la croix que nous consommons dans l'Eucharistie. Toute la liturgie eucharistique est tournée vers ce don pour nous inviter à l'accueillir. Et qu'en l'accueillant, nous participons aux épousailles du Christ et de l'Église. Toutes ces prières eucharistiques sont une pédagogie qui nous permet de nous remettre en face de ce beau projet de Dieu pour l'amour humain. Je vous remercie et nous nous retrouvons la semaine prochaine.